Bonjour, bonjour peuple béni. C'est un beau jour. Le Père nous a encore fait grâce d'une nouvelle journée, d'un nouveau matin. Aller au lit, se réveiller le matin, c'est pas automatique, c'est une grâce. C'est la grâce qui a fait cela. Dieu nous a encore ressuscité. Nous sommes sur la terre des vivants et on bénit son nom. Jésus a payé le prix. Et nous sommes là pour grandir dans cette vérité-là et dans cette intimité-là. Donc, c'est votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Marc chapitre 10. Aujourd'hui, nous avons seulement trois versets. C'est 10, c'est de 32 à 34. Ils étaient maintenant sur le chemin. Le titre, c'est « Jésus annonce une troisième fois sa mort et sa résurrection ». Ils étaient maintenant sur le chemin qui monte à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples qui étaient remplis de crainte. Et ceux qui les suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les 12 disciples avec lui et se mit à leur parler de ce qui devait bientôt lui arriver. Il leur dit, « Écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils les condamneront à mort et les livreront aux païens. Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, les frapperont à coups de fouet et les mettront à mort. Et après trois jours, il reviendra à la vie. » La grande nouvelle, c'est qu'après trois jours, il est revenu à la vie. C'est un match en différé que nous sommes en train de regarder. Ici, Jésus annonce de nouveau sa mort. Plusieurs fois, il leur a parlé. Quand il venait de la montagne de la Transfiguration, il leur a parlé. Et maintenant, là, c'est la troisième et la dernière fois qu'il leur parle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi, nous puissions retenir dans cette histoire apparemment triste, mais qui n'est pas une histoire triste, mais c'est l'histoire de notre délivrance. C'est l'histoire de notre rédemption, c'est l'histoire qui a fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas venu mourir, on était perdus pour toujours. Mais nous rendons gloire à Dieu de ce que Jésus a accepté de venir sur la terre et mourir comme un impie. La Bible dit, Jésus a dit à Pilate, « Ma vie, je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. » Et Jésus, dans sa dernière prière, en Jean 17, il dit à son Père, « Je t'ai donné entièrement ma vie pour eux, pour qu'eux aussi deviennent pour toi. » Donc ici, nous voyons que l'heure est arrivée pour partir à Jérusalem. Aller à Jérusalem, ce n'était pas aller à la fête. Il savait qu'il allait pour souffrir et mourir. Alors pour le Seigneur Jésus, ceci veut dire la douleur, la souffrance, l'agonie de la croix, le calvaire, Gethsemane, la honte et l'agonie. C'était ce qu'il voulait dire, nous partons à Jérusalem. Alors, quelles ont été ses émotions en temps pareil? Comment nous pouvons voir les émotions de notre Seigneur quand nous lisons cette histoire? Nous pourrions le lire dans la parole, Jésus marchait devant ses disciples. C'est Jésus qui allait mourir, ce n'était pas les disciples, mais c'est lui qui marchait devant les disciples. Jésus a affronté la mort avec un courage viril. Jésus marchait devant et les autres, avec la peur, craignant, ils étaient derrière. Il y avait une détermination de faire la volonté de Dieu. Tout en sachant le prix à payer, Jésus marchait devant les disciples, il était excité, il voulait, il attendait cette heure-là. C'est ce que le livre des Hébreux nous dit dans Hébreux 12, qu'à cause de la joie qu'il attendait de l'autre côté, il affrontait la mort avec courage. Il avait la joie de la restauration, il avait la joie que les enfants allaient être remis entre les mains de leur père. Il avait la joie que le diable allait perdre pour toujours. Jésus voyait déjà l'échec de l'ennemi. C'est pourquoi il a affronté la mort. Il a accompli tout ce que le Père lui avait demandé de faire. Nous voyons qu'il y avait aussi la solitude. Parce qu'on le voit marcher seul devant la foule, devant ses disciples et tous ceux qui le suivaient. Il y avait la solitude. Il marchait devant ses disciples, marchant seul. Même Jean n'était pas à côté de lui. Même Pierre était derrière. Il marchait seul. Sur le chemin là, pour aller faire la volonté de Dieu, parfois tu vas te retrouver seul, mal compris par tout le monde. Mais toi tu sais ce que tu es en train de faire, car l'appel de Dieu est personnel. Il faut être passionné ici comme Christ. Nous voyons la passion de faire la volonté du Père. On les voit seuls, les autres sont restés derrière. C'est comme s'ils pouvaient lui dire, entrons seulement, ne partons pas à Jérusalem maintenant. Nous voyons aussi dans ses émotions qu'il y avait de la joie, une grande joie, une joie de savoir qu'il était dans la volonté de Dieu. Nous voyons une joie qui anticipait la gloire, la joie de racheter l'épouse pour lui-même. Il y avait cette joie-là quand Jésus allait à Jérusalem pour mourir. Alors, à cause de la joie qui lui était réservée, c'est ce qu'Hébreux nous dit, il a enduré la croix et il a méprisé la honte. En fixant nos yeux sur lui, nous sommes étonnés. C'est que Jésus est en train de nous enseigner ici comment faire l'œuvre de Dieu. Nous devons être passionnés chaque fois que nous voulons faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Ce n'est pas l'attention, ce n'est pas ce qui se trouve autour de nous qui puisse nous arrêter de faire ce que nous croyons que ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que le Père m'a demandé de faire. Les gens autour de toi peuvent te décourager par leur attitude et leur comportement. Ils peuvent te dire que c'est impossible, ils peuvent te dire que c'est la folie, ils peuvent te dire ne pars pas, ce n'est pas le moment. C'est pourquoi il est très important d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous voyons ici que les disciples étaient remplis de crainte. Et ceux qui les suivaient avaient peur, car ils savaient que les chefs religieux à Jérusalem avaient déjà décidé sa mort. Ils savaient tout ça. Jésus le savait, la foule le savait, les disciples le savaient. Et le verset 33, verset 34, pour la troisième fois, Jésus donne avec détail le déroulement de tout ce qui va arriver. Donc, cette prophétie montre qu'il est plus qu'un homme ordinaire. Parce qu'ici, nous voyons comment le Seigneur lui-même est en train de donner les détails ici. Il savait très bien, il avait tous les films devant lui. Si nous voyons dans Marc 11, 1 à 13, nous pouvons lire cela. Il leur dit, nous allons partir là-bas à Jérusalem. Et si nous lisons chapitre 14, verset 1, verset 2, verset 43-54, il dit, le fils de l'homme va être trahi par les chefs religieux et les scribes. Et si nous allons toujours dans les chapitres 14, 55 à 65, Jésus montre, il dit, il sera condamné. Il sait. Et chapitre 15, verset 1, il dit, on va me livrer entre les mains des païens, c'est les Romains, parce que les Romains tuaient leur condamné à mort par la croix. Donc, ils savaient comment il allait souffrir et mourir. Et toujours dans le chapitre 15, 2 à 38, il dit, ils vont se moquer de lui. Ils vont cracher sur lui. Et ils vont le tuer. Et le chapitre 16, 1 à 11, il parle de sa résurrection, le troisième jour, il va ressusciter. Comment nous pouvons prendre ce passage et l'appliquer à notre marche, à notre vie? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions faire? Quelle est La leçon que nous tirons de ce passage, Jésus ici a entrepris son dernier voyage vers Jérusalem avec ses disciples pour y aller, pour être tué. C'était pour être mis à mort. Et nous voyons que les disciples avaient peur, il y avait l'angoisse, il y avait la crainte. Ils savaient que ce n'était pas un bon voyage. Et puis, il y avait pas seulement les disciples, il y avait aussi d'autres personnes, il y avait la foule. Et toutes ces personnes étaient dans la crainte, dans la peur. Peut-être ils sentaient, parce que c'était la troisième fois que Jésus leur parlait. Cette fois-ci, il avait donné les détails sur ce qu'il attendait de l'autre côté. Il en avait déjà parlé dans Matthieu 8, 31. Il en avait parlé dans Matthieu 9, 31. Alors cette fois-ci, même il précise que ce sont des principaux sacrificateurs et les scribes qui vont les condamner à mort et qui vont les livrer dans les mains des païens, des Romains. Et les païens vont les tuer. Et Jésus montre qu'il sera crucifié. Et tout ce qu'il a dit ici, ça s'est passé exactement comme il avait dit. Jésus n'a pas été surpris par sa mort. C'est volontairement, intentionnellement que le Fils de Dieu est venu mourir pour toi et pour moi. Il est écrit dans les Écritures qu'il a dit à son Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as formé un corps pour moi. Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. » Jésus disait à son Père, « Les sacrifices d'animaux, tu n'en veux plus. Les odeurs de tous ces sacrifices, ça ne te plaît plus. Alors moi, je vais être un sacrifice qui va te plaire. » Il a fait une alliance avec le Père, une alliance qui ne sera jamais détruite. L'alliance entre Dieu et Dieu, l'alliance entre le Fils et le Père. Et toi et moi, nous sommes bénéficiaires dans cette alliance nouvelle éternelle. Parce que lui qui a fait l'alliance, il se tient derrière l'alliance pour l'accomplir. Jésus a payé le prix avec son propre sang. Il est le sacrifice qui a atténué la colère du Père. Il est la seule odeur qui est montée dans les narines du Père et qui a satisfait les exigences de la loi. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi quand nous lisons l'Apocalypse, on nous dit que Jean pleurait parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en briser les sceaux. Jean dit « J'ai pleuré ». C'est-à-dire, on a appelé tous les habitants du ciel. Personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres, même pas d'en toucher. Abraham ne pouvait pas. Isaac ne pouvait pas. Esaïe a dit que non, ce n'était pas ma tâche. Moi, j'ai prophétisé seulement. Michel a dit, je ne peux pas. Personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en briser les sceaux. Daniel a dit, dans la fosse au lion, là, ce n'était pas facile. Esther a dit, j'ai risqué ma vie. Quand il fallait sauver ma tribu, je ne peux pas aller. Mais Jean a dit, les vieillards lui a dit, arrête de pleurer. Au milieu du trône, il y avait l'agneau qui était debout. C'est lui, le lion de la tribu de Juda. Lui, il avait été trouvé digne. Il a pris le sceau, il a pris le livre de la main droite de celui qui était sur le trône et il en a brisé le sceau. Lui, notre Rédempteur glorieux, lui, l'agneau lion, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, lui, le bébé couché dans les mangeoires des bœufs, en même temps ancien des jours, lui, la résurrection et la vie, le pont étalé sur un océan ouvert, il est le parfum qui avait été fait par l'art celui qui sait fabriquer le parfum. Il est Dieu, il est le mélange de safran, de l'aloe. Il est le parfum qui enlève l'odeur de la malédiction et de la mort. Quand on tourne notre regard vers Jésus, l'ombre de la malédiction passe derrière nous. Il est le chemin de la vie. C'est lui la grande montagne où nous allons tirer le secours. Il est Dieu. Il est l'arbre de vie planté dans le jardin de notre Dieu. Il est l'ombre du grand rocher dans le désert. Il est cette eau fraîche qui étanche la soif pour toujours. Il est ce pain qui enlève la faim. Il a dit aux enfants d'Israël, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mangez ma chair et vous vivrez. » C'est lui l'homme de bien. Le prophète puissant en acte et en parole. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Ses jours n'ont pas commencé, ses jours ne s'épuiseront jamais. Le ciel et la terre passeront, il va les plier comme un vieux vêtement. Mais lui, ses jours ne finiront jamais. Michée a dit qu'il a tiré son existence depuis les temps anciens. Avant que les cieux et la terre n'existent, il est Dieu. Voilà pourquoi il mérite toute notre adoration et notre louange. Lui, le Fils de Dieu vivant, le grand Dieu de l'univers, le commencement et la fin de l'histoire. Il mesure les extrémités de la terre avec ses doigts. Il a compté les étoiles et il leur a donné à chacune un nom. Mais pour toi et pour moi, il s'est confiné dans le ventre d'une femme. C'est pourquoi il mérite ton adoration et ta louange ce matin. Dis-lui combien tu l'aimes. Ouh la 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 la, shkaramen. Oh, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Ouh la la, shkaramen. Alléluia. Oh, Jésus, je t'aime. Roi de gloire, moi je t'aime. Oh, lion de la tribu de Judas, Jésus, je t'aime. L'agneau immolé, le fils de Dieu vivant, je t'aime. Alléluia. Oh, Shabanam, Kalingwa, Banjelobadinanga. Tchinkulam, Kulam, Kogeshua, Vikondo. Oh, la la la, Shkaramene. Oh, sois adoré, King of Glory. Sois adoré, toi l'incomparable. Que le Seigneur te touche aujourd'hui, là où il y avait les inquiétudes. Que la paix embrasse ton cœur. Que la paix remplisse ton cœur. Il a payé le prix, il est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité, il vit. Et il revient bientôt dans la gloire et tout élèvera. Voilà un message d'espoir. Après la douleur, après le rejet et la honte de la mort, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. La terre ne pouvait pas le contenir. Il est son créateur. Donc vous êtes bénis, restez dans votre béni. Et c'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.